Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux violences sexistes et sexuelles. À l'ordre du jour ce soir, quel relais pour les paroles libérées? Depuis plusieurs années, tels des glaciers qui dégèlent, les violences sexistes et sexuelles ont provoqué des torrents de témoignages. Plusieurs milliers devant la commission sur les abus sexuels dans l'église, la CIAZ. 30 000 témoignages recueillis par la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et déjà, je ne sais pas si c'est encore le chiffre, Judith Godrèche, 4 500, peut-être plus encore, confiés à Judith Godrèche depuis qu'elle a pris la parole pour dénoncer les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Mais quelle responsabilité implique le recueil de ces milliers de témoignages qui rendent compte à la fois d'un phénomène massif, mais aussi de l'importance du déni social qui l'a entouré jusqu'alors? Judith Godrèche, tout comme le juge Édouard Durand, qui a présidé pendant 3 ans la CIVIS, ont entamé depuis quelques semaines un dialogue sur les suites à donner à ces paroles libérées. Ils ont accepté de le poursuivre en notre compagnie et nous les en remercions chaleureusement. Merci à vous, Judith Godrèche, d'être avec nous.
Merci.
Et merci à vous, Édouard Durand, d'être avec nous également. Vous êtes magistrat, ancien coprésident justement de cette commission indépendante et vous êtes auteur dans la collection Tract Gallimard d'un livre, un petit fascicule qu'il faut absolument lire sur ce sujet, 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social.
Chère Judith Godrèche, vous le savez, ce qui se joue en ce moment, grâce à votre témoignage, à vos prises de parole, dépasse votre personne et votre histoire. Ce qui se joue en ce moment, c'est une révolution sociétale, la libération de la parole des autres victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma, mais pas seulement, et surtout la capacité de nous toutes et tous à entendre ces récits. Nous devons agir collectivement pour que cessent ces violences et qu'elles soient enfin sanctionnées. Depuis vos prises de parole publiques, vous avez reçu des milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles et de maltraitances sur mineurs et créé une adresse électronique pour les recueillir. Lors de la cérémonie des Césars vendredi dernier, vous avez pris la parole pour dénoncer l'omerta sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma et demander à tous les représentants de la profession de sortir de leur silence pour dénoncer l'inacceptable. Comme vous, nous appelons à un sursaut et à une prise de conscience collective. Comme vous, nous pensons qu'il n'est plus possible de fermer les yeux sur l'ampleur systémique de ces violences.
Vous venez d'entendre Dominique Vérien, sénatrice et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui s'exprimait lors de l'ouverture de votre audition, Judith Godrèche. C'était la semaine dernière au Sénat. Est-ce que votre personne est dépassée, comme le dit dans cet exergue Dominique Vérien, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes dépassé par ce que vous avez créé comme mouvement?
Dépassé, non, c'est pas le terme que j'emploierais. Et je comprends qu'on puisse se poser la question. Enfin, en tout cas, dépassé, non. Bouleversé, oui. Et puis, avec une forme de un sens des responsabilités et en même temps évidemment que je ne suis pas dans la toute puissance ou dans une je sais bien quelles sont mes limites, j'en ai conscience et j'essaie justement de mesurer ma capacité à répondre et à rester à l'endroit où je me suis à cette place qui est la mienne aujourd'hui. Oui, donc évidemment que je me pose toutes sortes de questions et que j'essaye aussi de justement avec ces adresses email, d'envoyer il y a des réponses automatiques qui partent avec des associations et des liens qui existent depuis toujours. Je n'ai rien inventé et je suis pas
Vous n'êtes pas une démiurge qui décide de tout prendre pour soi d'une certaine manière?
Non, surtout pas, sûrement pas, et j'en suis bien incapable.
C'est pour ça que vous avez entamé un dialogue, comme je le disais, avec le juge Édouard Durand, parce qu'il a eu cette habitude, on va l'entendre tout de suite, mais d'écouter justement, d'écouter ces paroles qui lui venaient par l'intermédiaire de cette commission qu'il co-présidait.
Oui, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés un peu par hasard, mais pas vraiment, parce qu'en fait moi je vivais aux États-Unis depuis plus de 10 ans et que... Et qu'on m'a beaucoup parlé des amies actrices comme Clotilde M ou Camille Kouchner qui a écrit un livre que vous avez lu, j'imagine.
Oui, évidemment, la
voilà,
de
et
Rambé.
C'est vrai que je crois que là où l'inévitable rencontre qui pour moi a été très très importante, et quand je dis inévitable, parce qu'évidemment elles avaient raison, il fallait que je rencontre Édouard Durand, c'est que quand on a été un enfant abusé et qu'on rencontre Édouard Durand, c'est l'enfant abusé qui rencontre Édouard Durand. C'est très difficile ensuite de pouvoir parler de son vécu, de pouvoir échanger et réfléchir avec qui que ce soit d'autre. Parce qu'il s'inscrit à un tel endroit d'honnêteté, de sincérité et il crée un cadre psychique, intellectuel et émotionnel dans lequel on ne peut que... Moi, en tout cas, je me suis sentie vue, entendue et crue, et pas comme une espèce de truc de façade ou de politiquement correct. Et c'est l'enfant en moi qui a réalisé qu'il était important que cet enfant continue de pouvoir parler avec le juge Durand.
Édouard Durand, vous passez votre temps à entendre les enfants. Vous étiez juge des enfants avant de co-présider justement la Civise. Vous connaissez ce recueil de paroles, mais vous avez entendu des paroles un peu différentes et surtout très massives avec cette coprésidence de la Civise, puisque je le disais, vous avez recueilli, je crois, 30 000 témoignages. Et 30 000 témoignages, c'est énorme. Comment peut-on, comme le disait Judith Godrèche, recueillir, là, ça fait un mois et demi qu'elle recueille beaucoup de témoignages, mais sur la longue durée, qu'est-ce que ça fait justement que de recueillir ces témoignages qui s'accumulent sur la longue durée, où on a peur peut-être d'oublier les premiers alors que les nouveaux sont en train d'arriver?
Ça fait quelque chose qui s'appelle l'humanité commune. Et ce que j'ai entendu en écoutant la sénatrice Dominique Vérien, qui parlait de dépassement...
Et de révolution sociétale.
Et de révolution. J'ai entendu un dépassement au sens où la parole privée personnelle accède à sa dimension universelle. Quand une personnalité comme Judith Godrèche et d'autres, Judith Godrèche a fait référence à Camille Kouchner, à Clotilde M., j'étais au téléphone tout à l'heure avec Eva Thomas. Quand ces personnalités prennent la parole, il faut faire l'effort de se représenter que dans une maison, quelque part, ici, là, comme ce vendredi soir à la cérémonie des Césars, des personnes de tous âges sortent de la solitude extrême. Et c'est en ça que ce dépassement est fondamentale et révolutionnaire, parce que l'expérience de la violence est une expérience qui reste étrangère pour le groupe humain que nous sommes. Et ces témoignages créent de l'humanité commune. Comment peut-on les écouter? Comment peut-on, depuis près de 20 ans que je suis juge, que d'autres, tous les membres de la Civise, dans leur engagement, ont pu les écouter pendant 3 ans. Mais pour agir, pour répondre à un besoin de reconnaissance et pour être à la hauteur de l'attente de ces témoignages, chaque témoignage était motivé de la façon suivante. Je le fais pour moi et pour que les enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu.
Et pour être écouter debout.
En étant statique, serait presque obscène. C'est écouter pour transformer.
Et cela, effectivement, votre carrière ne vous poussait peut-être pas, Judith Godrèche, à devenir justement actrice à ce point-là de ce mouvement collectif d'une certaine manière. Donc, vous dites, je me retourne et je sais ma place, je me retourne vers ceux et celles dont c'est le métier d'entendre et d'écouter ces témoignages qui me parviennent. Mais d'une certaine manière, il y a sûrement une étape supplémentaire. Comment voulez-vous transformer tout cela en autre chose?
D'abord, j'aimerais, à ma manière, ou en tout cas avec l'art qui m'émeut, qui me meut, c'est-à-dire le cinéma, rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont écrit, dans la mesure de mes moyens, voilà, à travers un projet. Ensuite...
Un projet de cinéma.
Oui, un projet de cinéma. Ensuite, je réfléchis, je pose des questions, je pose beaucoup de questions. Je me nourris de tous ceux qui, comme moi, ont posé des questions avant moi ou qui ont réfléchi avant moi pour essayer de se dire, voilà, moi, je ne peux que parler de mon expérience à moi. Je sais, dans ce que j'ai vécu, ce qui a été salvateur. Je sais ce qui m'a permis de pouvoir libérer ma parole, mais aussi de ne pas sombrer. Et une des choses vraiment qui a été primordiale et qui est presque un effet miroir, justement un effet miroir avec la parole utilisée par le prédateur, par l'abuseur, c'est moi mes abuseurs disaient, et c'est quelque chose qu'ils ont en commun, tu es unique, tu es magique, tu es unique, tu es unique. Et j'ai grandi donc parce que dans cette perspective là, dans cette idée là de moi-même, tu es unique, donc je vais faire un film sur toi, donc tu vas venir me voir dans mon bureau et on va écrire ensemble. Tu es unique, et là la porte se ferme et une toute autre histoire se raconte et s'écrit. Et le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'autres petites filles uniques et qu'en fait ce qui était important, c'était pas d'être unique, c'était de ne pas être seule. Ce qui était important, c'était justement de ne pas être unique, de comprendre que ce sentiment qui, quand j'étais petite, me faisait croire magique ou spécial, c'était justement la manière dont l'abuseur m'enfermait dans la boîte. Et le jour où je me suis rendu compte qu'on nous étions nombreuses et qu'à travers je, c'était nous, mais j'ai plus jamais de ma vie, j'ai envie d'être unique. Enfin, et pas que je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à travers toutes ces femmes qui m'ont écrit que j'ai pu moi-même avoir le courage de parler. Et donc je comprends que pour pouvoir arriver à être, ne plus se sentir unique, seule, cette forme-là de solitude, il faut pouvoir ancrer sa solitude dans l'histoire d'une autre.
Oui, avec cette idée, comme le disait d'ailleurs la sénatrice Dominique Vérien, d'agir collectivement, et vous le disiez, comment on agit collectivement une fois que la Civise s'est arrêtée, donc le 31 décembre dernier, que vous avez rendu votre rapport avec vos préconisations, qu'il devait avoir une seconde Civise sans vous et une bonne partie des membres qui y participaient, qu'on ne sait pas très bien ce qui va en être désormais, en tout cas. Comment on demeure fidèle à la parole donnée, puisque c'est une question qui vous importe beaucoup, Édouard Durand?
Oui, la fidélité, c'est un enjeu fondamental de l'existence de chacun et chacune, et y compris moi. Je me force de l'être dans ce texte, que ce tract. C'est une de ses motivations centrales. Depuis que l'année 2024 a commencé, ce sont 25 000, 26 000 enfants qui auront été violés et agressés sexuellement.
Et nous ne sommes que début mars.
Oui, en 2 mois. C'est une urgence absolue. Comment on agit? Eh bien, il y a un point de départ qui est ce rapport, ces 82 préconisations. Pendant 3 ans, nous, ces membres de la Civise, ce collectif, nous n'avons parlé que des enfants, que de la stratégie des agresseurs, que des moyens de protéger. Depuis 2 mois, on n'entend plus parler des enfants. Sinon, par la voix de Judith Godrèche qui a réouvert cet espace en nous. La façon dont nous nous préoccupons de nos enfants dit quelque chose de la dignité du groupe humain que nous voulons être.
Je ne voudrais pas prendre une métaphore qui ne vous irait peut-être pas, Édouard Durand, mais tout ce que vous dites dans ce tract 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social, donc c'est dans la collection Gallimard Tract, m'a fait penser à ces mosaïques byzantines où on voit le Christ plonger la main dans les tombeaux pour faire se relever les morts d'une certaine manière. Vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais en tout cas c'est celle qui m'est venue, vous disiez tout à l'heure, les gens se sont levés, lève-toi et marche, ils se sont levés, ils ont commencé à parler, et ils ont dit, désormais je continuerai à parler. Est-ce qu'il y a quelque chose justement de ce que j'appelais au début de cette émission, les paroles gelées qui se dégèlent en torrent?
Oui, je me suis permis d'écrire ce que vous avez dit, c'est tel des glaciers qui dégèlent, et ces torrents de témoignages, ça m'a beaucoup touché, et vous avez raison, bien sûr. Il faut comprendre que le passage à l'acte de l'agresseur, c'est une destruction, un anéantissement.
Et une destruction pour l'ensemble de la vie, après.
Gravissime. L'une des trahisons les plus cruelles qu'on puisse se représenter. Le silence et l'inertie sociale qui entoure la révélation des violences par la victime est un second anéantissement. Alors bien sûr que dans ces réunions publiques où des centaines et des centaines de personnes sont venues, quand vous entendez une femme ou un homme dire, après son témoignage, « Mais voilà, aujourd'hui je suis debout devant vous », eh bien, vous avez conscience que cette parole et la réception de cette parole répond à un besoin vital de reconnaissance.
Judith Grodrèche, il y a une autre expression qui m'est venue, je ne sais pas pourquoi, c'est la solidarité des écroulés. On entend cette question des écroulés, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont écroulés, et vous-même, vous témoignez d'avoir été justement écroulé par les prédateurs que vous avez connus. Et d'un seul coup, cette solidarité qui se manifeste alors que vous vous disiez vous-même, j'avais l'impression d'être seul. Comment voyez-vous justement cette solidarité se mettre en œuvre? On a presque l'impression d'un tableau décrivant une révolution avec des gens qui, comme dans 1900 de Bertolucci, marchent ensemble, des paysans du sud de l'Italie. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou c'est autrement?
Quand j'étais petite, j'aimais bien écrire des poèmes dans lesquels il s'agissait de quelqu'un qui serait le garde de mon corps. J'imaginais souvent, j'aimais bien l'idée comme ça, qu'il y avait des gens qui seraient, j'inventais des personnages dont la fonction ou un des traits de leur personnalité serait d'être le garde de mon âme, le garde de mon corps. Et puis je me dis souvent, dans le fond, quand on est face au silence d'une famille, quand on a un enfant, au silence d'une société, quand on est le moins puissant ou le plus petit, le plus faible, et qu'il y a une brèche ou une petite voix ou quelqu'un qui dit, et puis que cette personne, elle a la chance, le privilège d'avoir à sa portée les médias, ou même de faire face à un parterre de gens habillés avec des très belles robes et des beaux costumes.
Au César.
Et qu'à l'intérieur de cette société faite de choses très belles, de gens très beaux et de paillettes, il y a une personne qui ose dire « il y a un truc pas très beau qui s'est passé ». Et là, à l'intérieur de cette famille magnifique, où on ne dit rien, il y a une petite fille, une femme, une adulte, moi, qui dit « écoutez, on est capable de faire mieux ». Et là, quelqu'un peut-être qui regarde ça, qui entend ça, se dit « mais tiens, et peut-être qu'en fait, moi, au bureau, ou chez moi, ou peut-être que dans la société dans laquelle moi, j'évolue, je vais avoir le droit aussi de montrer que c'est pas si beau ».
Un peu comme quand vous regrettez d'avoir été cette jeune fille montrant que c'était possible au cinéma, comme vous l'avez dit plusieurs fois, d'être une jeune fille séduisante pour des réalisateurs très jeunes. Une sorte de revers de la médaille, ce serait de dire « regardez-moi maintenant, parlant au César et arrivant à dire des choses qui vont vous faire sortir justement dans une sorte de nouvelle identification, faire sortir du silence dans lequel vous êtes, c'est ça ?»
Oui, puis c'est aussi de se dire, et si on jouait vraiment le rôle de notre vie maintenant, c'est-à-dire non pas le rôle de ne pas incarner le désir de l'autre, le fantasme de l'autre, d'oser s'incarner et être et ne pas être hors soi, être à l'intérieur de soi, dans, à un endroit où on a le droit de s'exprimer et non pas de garder sous silence des secrets qui font qu'au bout du compte, celle qui souffre ou celui qui souffre, c'est celui qui se tait.
Et justement, vous êtes évidemment assez pessimiste parfois, Édouard Durand, même si vous êtes dans l'action, et vous dites plusieurs fois, le messager paie toujours. Or là, la messagère, qui est Judith Godrèche, a payé avant, peut-être paiera-t-elle après, j'espère pas, en tous les cas, mais ce n'est pas toujours le messager qui paye, parce que là, c'est le messager qui porte la parole et qui transforme le monde.
Il me semble que, à très juste titre, Judith Godrèche, le vendredi des Césars, a dit « je parle, mais je ne vous entends pas ». Et vous le savez bien, quand on parle d'interdit à propos de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, le tour de passe-passe, c'est d'avoir transformé un interdit en un autre. En réalité, l'interdit n'est pas de violer les enfants, l'interdit est d'en parler.
Bien sûr.
Et c'est en cela que le messager paie toujours, à commencer par l'enfant lui-même, quel que soit l'âge auquel il révèle ses violences, qui est souvent d'être exclu du groupe. On s'arrange toujours pour dire, c'est mieux qu'on n'en parle pas.
Pour protéger la famille, ceux qui sont les abuseurs autour de cet enfant. 18h42 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat, quel relais pour les paroles libérées. Nous sommes en compagnie de Judith Godrèche et du juge Édouard Durand.
Il y a une multiplication de créations, d'appels à témoignages. Le témoignage, pour avoir eu la chance de voir le travail fait par la Civise, les témoignages, il faut pouvoir les recevoir. Il faut être formé pour les recevoir. Les victimes, elles arrivent souvent très 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 fragiles. Il faut pouvoir les accompagner, leur répondre, les orienter. J'ai un petit peu peur de toutes les initiatives personnelles. Je pense qu'on gagnerait vraiment à ce qu'elles soient redirigées, par exemple, vers le collectif féministe contre le viol. Je pense que tout le monde... J'ai ramené ici le rapport du travail de la Civise. Bon, c'est conséquent, hein. Mais c'est 3 ans de travail. C'est 3 ans de travail. Il y a 82 préconisations pour vraiment prendre le problème à la base. Parce qu'on parle de la famille du cinéma. On utilise ce mot famille, mais avant d'entrer dans la famille du cinéma, on sort aussi de nos familles.
France Culture, Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
C'était l'actrice Anna Mouglalis qui intervenait à vos côtés, Édouard Durand, sur le plateau de C'est l'Hebdo sur France 5 samedi dernier. Alors justement, passons peut-être à ce travail postérieur qu'il faut faire désormais. On passe par les institutions, on passe pas par les institutions parce que les institutions sont réticentes, on passe par la justice traditionnelle. Comment peut-on faire? C'est ce que vous faites dans le rapport de la Civise, vous préconisez des choses, mais d'une certaine manière... Par où passe-t-on et quelles sont les solutions, les espaces de sécurité où les personnes peuvent parler, la question de l'imprescriptibilité, comme vous l'avez imaginé, les soins en psychotraumatisme qu'il faut donner à ceux et à celles qui ont subi ces violences sexistes et sexuelles. Quels sont les moyens, d'une certaine manière, qu'il faudrait mettre en œuvre et que vous espérez peut-être qu'un gouvernement puisse mettre en œuvre, Édouard Durand?
C'est d'abord une politique publique. La révolution dont vous parliez, monsieur, en introduction, en ouverture, c'est d'abord une politique publique. Nous devons choisir de quel côté nous sommes.
Parce qu'il n'y a pas de neutre, dites-vous.
Oui, ça c'est très important, c'est ce que j'appelle les bonnes planques. C'est une arme de langage pour s'autoriser à décrédibiliser la parole de l'autre, en disant, oh, mais moi je suis neutre, moi je suis dans la pensée complexe, c'est pas aussi schématique, mais... Moyennant quoi, il y a 160 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles. 70% des plaintes sont classées sans suite. Les victimes ne reçoivent pas de soins spécialisés du psychotraumatisme. Et quand on est devant un enfant qui dit « je suis victime de violences sexuelles », oui, c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué. Mais il y a deux possibilités, pas 25. Soit on rentre chez soi le soir en se disant « il est protégé, elle est protégée », soit on rentre chez soi le soir en disant « j'espère que ça ira bien ». Eh bien, une société digne de ce nom ne fait pas courir de risques aux enfants et c'est une politique publique. Voilà pourquoi il y a ces 82 préconisations. Notre aspiration, elle est limpide et simple. Il faut les mettre en œuvre. Plus on attendra, moins les enfants seront protégés.
Qu'est-ce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que vous le décrivez, que le décrit théoriquement le droit, depuis très longtemps maintenant dans notre pays? Et qu'est-ce que c'est que, par exemple, le principe de diligence raisonnable? Je n'ai pas connaissance de ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je m'attarderai surtout sur le concept d'intérêt de l'enfant ou d'intérêt supérieur de l'enfant qui a remplacé dans le droit civil les mots de protection de l'enfant. C'était plus clair, protection. À la réflexion, après quelques années d'expérience en tant que juge, j'en suis venu à penser que nous utilisions ce vocable d'intérêt de l'enfant comme d'un joker. On appelle intérêt de l'enfant la décision qu'on veut prendre. Alors que l'intérêt de l'enfant, en réalité, il est aussi réel que ce micro ou cette table sur laquelle je m'appuie. L'intérêt de l'enfant, c'est la garantie de sa sécurité psychique et physique. Et la garantie qu'il aura auprès de lui une personne qui saura répondre à ses besoins dans les situations de stress. Tout autre...
Croyez-moi, c'est pas ce qui se passe sur les plateaux de cinéma, pardon.
Allez-y, vous avez raison d'interrompre.
Je pense que répondre aux besoins de sécurité devrait être le critère de toute organisation concernant un enfant.
Oui, d'ailleurs, sur les plateaux de cinéma, il pourrait y avoir effectivement des gens, des tiers, des personnes qui ne sont pas de la production, par exemple, qui accompagnent pas à pas, pourrait-on dire, les enfants qui sont en tournage, par exemple.
Bien sûr, ça devrait être obligatoire. Ça ne devrait pas être possible. Enfin, on parle du fait que dans certains pays, les enfants sont employés, enfin, travaillent en usine. On parle de ces pays-là avec révolte, parce que ça n'existe pas dans notre pays. Mais évidemment, les plateaux de cinéma ne sont pas des usines, ce sont des plateaux de cinéma, avec ce mot qui impressionne tout le monde et cet art qui met des étoiles dans les yeux. Mais n'empêche que sur les plateaux de cinéma, nous ne traitons pas les enfants mieux que dans d'autres endroits où on fait travailler les enfants. On peut laisser des enfants seuls, dans des lieux de vie en province, où ils n'ont personne pour rester avec eux le soir, dans la chambre, même dans des chambres chez l'habitant, ou dans des maisons. Il y a toutes sortes de circonstances qui font que ces enfants ne sont pas encadrés et n'ont pas une personne justement pour eux qui est là pour veiller à leur santé psychique sur les tournages. Des gens ne sont pas, il y a des personnes qui sont qui s'improvisent nounou, première, deuxième assistante, stagiaire, qui s'improvisent la nounou de l'enfant. Des gens qui ne sont absolument pas formés, dont on ne sait quasiment rien. Et même si ces personnes peuvent sembler très sympathiques, elles ne sont pas à même de s'occuper d'un mineur, d'un enfant sur un plateau de cinéma sur lequel on demande très souvent à des enfants d'exprimer et d'interpréter des sentiments extrêmement violents par ailleurs et de raconter des histoires qui forcément les mettent dans un état psychologique fragile qui fait que même à la fin d'un tournage, un enfant devrait également avoir quelqu'un qui puisse lui apporter du soutien pour comprendre ce qu'il vient de vivre, pour qu'il sache, il y a tout un cadre qui est complètement inexistant et absolument pas obligatoire.
Édouard Durand, dans un dialogue assez formidable pour le mensuel l'hebdomadaire La Vie, vous avez dialogué avec Jean-Marc Sauvé, qui dirigeait la CIAS, donc cette commission qui avait été mise en place pour juger les crimes commis par les prêtres et dans l'Église. Et il dit qu'il a été bouleversé, comme vous et comme tous ceux qui ont approché de près ces questions-là, par le mal à l'état pur, dit-il, avec une dimension, disons, chrétienne, une sorte de carnaval diabolique, évoque-t-il. Mais il dit surtout, il faut désormais co-construire avec les victimes une alliance nouée progressivement puis sanctuarisée. Et vous abondez dans son sens, dans ce dialogue, dans la vie. Qu'est-ce que c'est l'alliance entre les victimes et ceux qui les écoutent, ceux qui tentent justement de réparer, si c'est possible, effectivement, ce qu'ils ont subi?
D'abord, c'est protéger sans attendre. Sans attendre 2 mois, par exemple, que 26 000 enfants soient victimes de viol ou d'agression sexuelle.
Comme depuis le rendu de votre rapport.
Absolument. C'est protéger au sens où, lorsqu'un enfant ou une personne adulte révèle des violences à une société qui fait semblant de lui, de l'inviter à le faire, mais parler, libérer la parole, sortez du silence, hein, n'attendez plus, nous sommes là. Eh bien, à l'instant même où cette personne, quel que soit son âge, y compris les tout-petits, révèle les violences, le visage de la société se transforme et dit « Mais je vois pas pourquoi je te croirais. On a des principes. On te dira dans 5 ans si on aurait dû te protéger ou pas, et quand on aura 70, t'iras à la civise. » Eh bien, ça, il faut que ça change. L'alliance, c'est être du côté de la loi. Et ensuite, il y a 2 choses, si je peux en parler un bref instant. C'est que nous parlions de solitude tout à l'heure, ce que j'appelle l'incommunicabilité, ce vide qui reste toujours aux yeux des autres, avec qui on vit pourtant et qu'on côtoie tous les jours, et qui, même s'ils sont bienveillants, ne comprennent pas ce que c'est. Et il faut combler ce vide. Ensuite, il y a la réparation. Et la réparation, c'est la justice et c'est le soin. Mais une société ne peut tolérer que la loi qu'elle édicte soit transgressée dans l'impunité totale.
Ce vide, vous l'avez connu, Judith Godrèche, ce vide dans lequel vous avez pu être à un moment parce que on ne vous entendait pas, on ne vous comprenait pas, comme le dit le juge Durand.
Je ne sais pas si c'est qu'on ne me comprenait pas. Je pense que...
En tout cas, on ne vous entendait pas, c'est
oui,
ce que vous avez dit.
Oui, on ne m'entendait pas, on ne voulait pas m'entendre. Enfin, en tout cas, je pense que je pense que on m'a entendue. Les gens ont été forcés à entendre. Maintenant, c'est plus une question de passer à l'acte, de justement, dans le bon sens du terme, de d'agir et de réagir et de ne pas rester un spectateur ou un auditeur qui ensuite va parler de tout ça dans un dîner mondain, mais dans le fond le lendemain sur le tournage va faire exactement la même chose ou être témoin des mêmes choses. Et vous savez, c'est intéressant parce que moi je réfléchis beaucoup à l'idée du pardon, mais dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, hein, juste pas à ma petite échelle, c'est-à-dire par exemple de dire à quelqu'un « je suis désolée », vraiment, mais un vrai désolé, c'est-à-dire j'ai été désagréable d'être capable de dire à ses enfants « oui, t'as raison, j'étais de mauvaise humeur et je me suis exprimée de façon injuste ». Et puis par exemple, un homme sur un tournage ou dans la vie fait une remarque déplacée ou un geste déplacé et puis vous lui dites et il dit « Mais pardon, je suis désolée, je me rends compte que c'est... » Et parce qu'en fait, dans le fond, justement, si on commençait déjà aussi à s'excuser, à dire... Je voyais, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où une femme s'exprime sur les violences sexuelles et sexistes, il y a cette espèce de peur et de terreur de « Oh là là, ça y est, elle va sortir la Kalachnikov et on est tous prêts à se faire dégommer et puis oh là là, allons nous cacher dans les bois ». Non, il y a aussi une possibilité, et je ne vous parle pas évidemment du viol, hein, je parle d'une manière de se comporter entre hommes et femmes et dans la vie qui fait qu'à un moment donné, si on a une parole déplacée ou un geste déplacé, il y a aussi la possibilité d'un dialogue, c'est-à-dire de dire « je suis désolée, mais oui, mais ça m'a mis mal à l'aise, bah oui, je comprends très bien ». Tandis que là, il y avait le sentiment que je mettais un peu les cartes sur la table, que voilà, je disais « voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui continue de se passer, tout le monde le sait et tout le monde savait. Et à ce moment-là, le silence, silence. Les gens disparaissent dans les bois comme si c'était des petits lapins et que le chasseur arrivait et le chasseur, c'est moi. Non, l'idée, c'est que cette société du cinéma peut se réveiller, il est encore temps, et dans une sorte d'énergie commune et positive, de faire changer les choses et le destin, et notre destin commun.
Oui, parce que ce sur quoi vous insistez beaucoup, Édouard Durand, c'est ce coût social du déni dont on a parlé depuis le début de cette émission. C'est-à-dire que notre société est mangée socialement, est dévorée même peut-être économiquement par justement ce déni dont vous parlez avec Judith Godrèche et qu'il faut absolument faire éclater.
La violence est un instrument de pouvoir. Et les agresseurs ne tirent profit que pour eux-mêmes. Autour d'eux, ils détruisent. Sans culpabilité, avec indifférence, ils prennent. Et le troisième protagoniste de la scène de crime, le tiers, la société, les pouvoirs publics, les gens, sont toujours mal à l'aise, parce qu'ils sont déjà pris par le pouvoir, fascinés et effrayés.
Par le pouvoir maléfique de ces personnages-là.
Ben, par la décision de dire « j'ai le droit de prendre possession du corps de l'autre ». Et c'est pour ça qu'à la CIVI, nous avons voulu faire le chiffrage du coût économique annuel des violences sexuelles faites aux enfants, 9,7 milliards d'euros, avec l'espoir que là, tout le monde se dirait « Ah, c'est vraiment un problème collectif. Ah, c'est vraiment un problème d'ordre public et de santé publique. » C'est d'abord le coût de la souffrance. Le coût de la souffrance qu'on laisse à l'extérieur de soi comme si on n'était pas concerné. Il faut arriver à se dire que si nous ne faisons pas respecter la loi, nous ne pouvons pas vivre en société.
Vous y croyez, Judith Godrèche, justement, à cette possibilité d'une révolution sociétale dont parlait au tout début
de cette émission ? En tout cas, le mot révolution me plaît, parce qu'en tout cas, dans l'univers du cinéma, pour moi, on est vraiment au Moyen-Âge, on est dans l'aristocratie. C'est-à-dire que le pouvoir, justement, et le pouvoir de posséder, le pouvoir, justement, de la viol...
De voilà. Posséder le corps de l'autre.
Voilà, mais également le pouvoir de ceux qui ne possèdent pas le corps de l'autre, mais qui décident que les petites gens, c'est-à-dire les techniciennes, doivent se taire, parce que ça créerait un désordre.
Vous avez reçu beaucoup de témoignages de techniciennes.
Oui, et puis j'ai même pas besoin de les recevoir pour les connaître. Enfin, je sais exactement comment ce système marche. Il y a une pyramide, on est dans un système féodal, et il y a en effet, des producteurs, des acteurs qui décident qui ont du pouvoir et qui du coup, c'est impossible quand on est une personne qui n'a pas ce pouvoir-là, dont le pouvoir n'est pas à égalité, de pouvoir faire entendre sa voix.
Merci à tous les deux d'être venus dialoguer autour de ces questions. Merci à vous, Édouard Durand. Je rappelle votre livre, Le Tract Gallimard, 160 000 enfants qu'il faut absolument lire. Et puis, effectivement, il faut relire votre discours des Césars, Judith Godrèche, pour bien comprendre ce que vous vouliez, en quoi vous vouliez alerter la société tout entière autour du cas du cinéma. Le temps du débat est préparé ce soir par Roxane Poulain, Fanny Richer, Mathias Mégie, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Félix Delacour.